dernière partie de la Grande Table. Caroline Brouet.
Bonjour Mounir Majoubi.
Bonjour.
Et bienvenue à la Grande Table. Vous êtes directeur général adjoint de BETC Digital, qui est une agence marketing filiale du groupe Havas. Mais ce n'est pas ce titre-là que nous vous avons invité aujourd'hui. C'est parce que vous venez de prendre la présidence du Conseil national du numérique après Benoît Thiolin, qui est resté 3 ans à la tête de ce CENUM, c'est comme ça qu'on l'appelle, ouais. Le CENUM. Et Benoît Thiolin vous a adoubé de 3 mots, jeune, entrepreneur et geek. Ça vous fait plaisir ?
Oui, ça me fait plaisir et ça me qualifie bien. Le Conseil national du numérique, c'est un objet un peu particulier. C'est un objet qui est dans l'État, à côté de l'État. On est indépendant, on exprime des avis sur tous les sujets et surtout, on réunit 30 experts qui viennent de différents horizons. Comme moi, il y a des entrepreneurs, il y a des chercheurs, il y a des gens qui viennent de grosses boîtes, il y a des gens qui viennent de toutes petites start-up qui viennent d'être créées, il y a des animateurs d'écosystèmes digitaux. Et puis, ce qui nous réunit tous, c'est une expertise du quotidien, du digital et du numérique. Et cette expertise, ce côté geek, cette expertise de la vie numérique, cette expertise de la société à l'ère du numérique, eh ben on la met à la disposition du gouvernement, du Parlement, mais aussi des Français, pour essayer de donner un peu un regard, une vision, un chemin sur les transformations qu'on est en train de vivre à cause du numérique. Et vous l'avez vu avec l'actualité, elle concerne tout. La vie privée, la sécurité, la vie des entreprises. Et bien, c'est tous ces sujets-là qu'on est amené à porter. Alors, parfois, ça nous amène à nous prononcer sur des sujets très divers. Et ça, nous, on est très heureux à chaque fois qu'on arrive à être utile.
Alors, on va essayer de ne pas partir dans tous les sens, parce que précisément, le Conseil national du numérique touche à tout, vous l'avez dit, Mounir Majoubi, mais on va quand même se concentrer sur ce rôle du Conseil national du numérique et sur ce rôle en regardant de près un certain nombre de questions qui ont trait à l'actualité, qui touchent non seulement l'actualité française, mais peut-être même plus, qui touchent l'actualité mondiale. Je pense notamment à cette bataille, on y viendra dans un deuxième temps de l'émission, entre Apple et le FBI, puisqu'il touche ce débat entre les libertés et la sécurité. Pour vous interroger à nos côtés, nous avons quand même sollicité la compétence et les savoir-faire de quelqu'un qui connaît très très bien tout ce monde du numérique, qui est Adrienne Charmet, bonjour.
Bonjour.
Qui est la coordinatrice de la Quadrature du Net. La Quadrature du Net, c'est l'association de défense des droits et libertés des citoyens sur Internet. Vous vous occupez de gérer toutes les campagnes de la Quadrature du Net et la spécialité de cette association, précisément, c'est la liberté et la sécurité, ou en tous les cas, les libertés. Au sens très large. Aujourd'hui, les libertés se confrontent à la question de la liberté et de la sécurité, donc je pense qu'on va y venir. Mais je voudrais qu'on s'arrête effectivement un temps sur ce rôle et cette utilité du Conseil national du numérique, Mounir Majoubi. Ce conseil a été créé sous Nicolas Sarkozy, un peu la même chose, disons, en 2011. Comment qualifieriez-vous ce que le Conseil a fait depuis 4 ou 5 ans? Vous avez rendu, enfin vous n'étiez pas forcément encore là, mais le Conseil a rendu une vingtaine de rapports sur la fiscalité, sur le numérique à l'école, sur le travail, sur l'emploi. Est-ce que vous avez été suivi, écouté? Là où ça a pêché, là où ça a porté ses fruits, qu'est-ce que vous diriez ?
Eh ben, le Conseil du numérique, il est comme le numérique, c'est-à-dire qu'il évolue très vite, il s'adapte et son rôle se transforme. Quand il a été créé, on lui a un peu reproché d'être un peu trop un conseil de l'industrie du numérique, avec des membres notamment plutôt issus de l'économie numérique et pas forcément un conseil de la société à l'ère du numérique. Et ce qui s'est passé les 3 dernières années avec Benoît Thiolin, c'est que ce conseil a vraiment repositionné sa façon de travailler dans le choix des sujets et puis dans la façon de les appréhender comme un conseil de la France, du monde, à l'ère du numérique. Ce qui fait que ces 3 dernières années, on a pu s'interroger sur le travail, sur la santé, sur l'éducation nationale. Très récemment, et là on va rendre dans quelques semaines un rapport sur l'enseignement supérieur, et là je viens d'annoncer la feuille de route avec un grand sujet sur les PME. Donc vous voyez, c'est assez divers ce que nous faisons, et nos moyens d'intervention aussi sont divers.
C'est-à-dire
qu'on peut être saisi par le gouvernement, lors d'un grand projet de loi. Et dans ce cas-là, on demande au CENUM de proposer, comme on le propose à d'autres acteurs, une vision, un regard, un avis sur des questions. Et puis, il y a l'autosaisine. C'est quand le gouvernement ne nous saisit pas sur un sujet, mais qu'on décide que la question est majeure et qu'on a envie d'exprimer une voix importante. C'est notamment ce qui est arrivé en 2015 sur la loi renseignement. Nous n'avions pas été saisis par le gouvernement, qui n'attendait pas forcément notre position sur le sujet. Nous nous sommes autosaisis. Nous avons apporter un regard, une vision sur ce sujet. On n'a pas été suivi sur toutes les recommandations qu'on a faites. On a travaillé avec la Quadrature du Net. On porte pas toujours les mêmes positions, mais sur la loi renseignement, on peut dire que la Quadrature travaille sur ce sujet depuis de nombreuses années. Et au-delà des positions prises par la Quadrature, il y a aussi ce que la Quadrature a réussi à mettre en place comme vocabulaire. Parce que le problème sur les libertés, sur la sécurité, sur le chiffrement, c'est qu'on manque de vocabulaire simple pour pouvoir parler de ces concepts-là. Parce que c'est des sujets qui sont assez compliqués, mais qui finalement, dans notre quotidien de citoyen, dans notre quotidien d'entreprise, sont hyper importants. Donc comment on arrive à trouver un vocabulaire, des valeurs, un système, une doctrine pour vraiment débattre de ce sujet-là?
Voilà, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Travail, santé, éducation, éducation supérieure aussi, PME, ce sont les champs d'action. Quelle est votre philosophie principale? Si on pouvait la résumer.
La philosophie de Mounir Majoubi ou du Conseil national du numérique?
Vers quoi vous allez?
Quelle vision?
Quelle est votre corps de doctrine, etc.
Alors, je vous ai expliqué ce que Benoît Tula, avec le conseil précédent, a réussi à porter. Le numérique, être utile à l'heure d'une société, à l'heure du numérique. Nous, on va apporter aussi un upgrade, une augmentation, un suivi, un nouveau moment pour ce Conseil national du numérique autour de l'utilité immédiate et sur la praticité et l'opérativité. On a traité de sujets très complexes sur lesquels on a offert un éclairage global, puis avec des rapports assez longs, assez entreprenants dans l'analyse de l'existant, l'analyse des controverses, et avec des recommandations assez larges. Là, dans les rapports qu'on va rendre, notamment sur enseignement supérieur et sur PME, on va essayer d'avoir des recommandations plus directement utilisables par les publics dont on parle. En gros, quand on parle de transformation numérique des universités, ben on va essayer de faire que ce qu'on va rendre à la fin, ce soit utile aux universités elles-mêmes. Et pas uniquement au gouvernement ou au Parlement, dans le cadre d'une loi qui potentiellement leur serait utile ensuite. Donc ça, c'est une première direction nouvelle qui est importante pour nous. Sur la question plus largement du chiffrement, par exemple, de la sécurité, un des objectifs qu'on se donne pour cette première année, c'est de faire la pédagogie de ce sujet-là. Nous, on veut que les Français, tout à l'heure on a parlé de démocratie participative, je veux que les Français se saisissent du sujet et le comprennent. Et là, je pense qu'on peut avoir un rôle, nous, d'éclairage, de pédagogie du sujet à destination des Français, mais aussi des parlementaires.
Ça veut dire, Mounir Majoubi, que vous ne serez plus seulement dans l'auto-saisine ou saisie par le gouvernement. Ça veut dire que vous allez vous-même proposer des modes d'action, bah, par exemple de la communication, comme vous le faites aujourd'hui, si vous êtes dans la pédagogie à destination du public.
Tout à fait. C'est aussi un des rôles qui découle de cette capacité d'auto-saisine du Conseil, c'est de se dire, il y a des sujets qui aujourd'hui ne sont pas traités, ou pas traités nécessairement de la meilleure des manières, sur lesquels il est important qu'une voix nouvelle, une voix d'expert, une voix distanciée et neutre, on n'est pas la voix d'un lobby, on représente personne, on n'a pas, et on a cette chance-là, on n'a pas la responsabilité qu'a un gouvernement dans les équilibres, dans la réelle politique. Nous, on n'a pas cette responsabilité-là. On est là pour donner un regard de ce qu'on imagine comme étant la société idéale à l'ère du numérique.
Adrienne Charmet.
Oui, comme disait Mounir, on a souvent, à la Quadrature, été auditionné de façon très formelle ou beaucoup plus informelle par le CNUM. L'avis de la Quadrature sur le CNUM, c'est globalement, c'est un travail intéressant, des rapports intéressants. Maintenant, moi, je me pose une question après plus de 4-5 ans d'existence du Conseil national du numérique. Après plusieurs rapports, certains sur lesquels on n'était pas forcément toujours d'accord, d'autres de très grande qualité, je pense notamment aux avis du CNUM sur la loi renseignement ou sur le projet de loi numérique, qui était vraiment le gros morceau aussi de l'année dernière. Comment faire pour que le Conseil national du numérique serve vraiment à quelque chose au-delà de produire des rapports qui sont vraiment pour nous la plupart du temps intéressants, et c'est bien qu'une institution qui soit à côté, mais sous l'autorité de l'État, mais pas totalement, enfin bref, qui est quand même une certaine reconnaissance gouvernementale. Comment faire pour que le CNUM, au-delà de produire des rapports, au-delà de poser un avis, commence à servir à quelque chose, soit pris en compte par le gouvernement? Le gouvernement actuel ne prend pas beaucoup d'avis en compte, même hors du numérique, c'est quand même une constante depuis quelques temps. Mais là, côté CNUM, on va finir par se demander à quoi sert le CNUM s'il ne sert qu'à produire de bons rapports.
C'est la question de l'utilité que vous posiez vous-même d'ailleurs.
C'est la question que je pose, c'est celle sur laquelle je veux introduire une transformation dans le rôle du CNUM. Je pense que vraiment, sur les 3 dernières années, les sujets n'avaient pas été balayés sous ce prisme-là depuis très longtemps. C'est-à-dire que ça a été très important d'avoir ce travail. Sur la loi santé, par exemple, sur la loi travail, c'était important qu'on ait ce gros travail de fond, ce gros travail de recherche, et qui redonne à tous un vocabulaire, une vision, un regard, qui a stimulé beaucoup de chercheurs. Les rapports du CENIUM, ils ont beaucoup été utilisés par les associations et les experts, et par les chercheurs de l'autre côté, et aussi par le gouvernement qui n'a pas forcément tenu compte de toutes nos recommandations. Là, aujourd'hui, ce qu'on se dit, le bilan que je fais, c'est de dire, on a balayé la plupart des questions majeures. Aujourd'hui, il faut que sur certains sujets, on rentre dans une deuxième phase qui soit celle de l'utilité et de l'opérativité.
Oui, mais comment ? Vous ne répondez pas à la question du comment.
Bah, on va prendre un exemple, c'est plus simple. Comme ça, enseignement supérieur. On a eu la tentation à un moment, c'est une saisine qu'on a reçue de la part du ministre de l'enseignement supérieur à la fin du précédent mandat. Le travail a continué entre les deux et puis c'est un travail qu'on a repris avec le nouveau collège qui est arrivé il y a 3 semaines. On avait la tentation de faire un grand rapport sur l'enseignement supérieur, l'université en 2020, etc. etc. Et puis le ministre Thierry Mandon a été un des premiers à nous bousculer un petit peu en disant « Écoutez, des rapports sur la transformation numérique de l'université, j'en ai déjà reçu plein. » Donc si vous pouviez tenter...
Et ils sont dans tel tiroir.
ou par terre derrière telle porte. Oui. Parce qu'ils sont gros, ils ne rentrent plus dans les tiroirs. Donc, il nous a lui-même invité à penser l'utilité. Et c'est là que nous on arrive, et c'est là où je proposais cette nouvelle méthode, et on s'est dit, bah, sur l'enseignement supérieur, on ne va pas rendre un rapport. On va rendre des outils. Mais chiche, et surtout, je peux encore plus redire chiche, parce que c'est prêt. Donc c'est prêt, on travaille sur la finalisation de la recommandation. Et donc, à quoi ça va ressembler ? Bah, ça va ressembler à une matrice de transformation des universités, c'est-à-dire un objet conceptuel sur 5 grands axes de l'enseignement supérieur. Sur chacun de ces axes, on a identifié des échelons de 1 à 4 qui permettent, et dans chacun des échelons, des items, c'est-à-dire des actions à mener pour passer à l'échelon supérieur. Cet outil, les universités vont pouvoir l'utiliser pour se positionner elles-mêmes, faire leur propre diagnostic, parce que rappelons que les universités sont autonomes, donc ça c'est très intéressant dans le cadre de notre projet, et elles vont pouvoir identifier les mesures à mettre en place pour pouvoir mener cette transformation numérique.
Vous pouvez être plus précis sur un exemple
Contenu pédagogique.
Ouais.
Contenu pédagogique des universités. Bah, l'alpha et l'oméga, c'est pas le MOOC, parce que tout de suite on se dit c'est le MOOC. Bah en fait, entre rien du tout, il y a encore malheureusement des établissements supérieurs qui n'ont rien numérisé dans le cadre de leur contenu. Eh bien, il y a une première étape qui pourrait être la numérisation des contenus écrits. Une deuxième étape qui pourrait être la création de vidéos et de supports écrits et de capture des contenus existants. Puis l'ultime étape, le niveau 4, ce serait un parcours pédagogique étudiant délinéarisé avec un mélange de présentiel et de numérique, avec une communauté en ligne, etc. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas se demander à un établissement qui n'a pas reçu les financements, qui n'a pas su prendre le virage suffisamment tôt, de tout de suite passer à ça. Parce que ça nécessite des changements structurels, des changements organisationnels et des investissements. Donc on dit à ces établissements, bah, regardez tout ce que vous pouvez déjà faire en étape 1, regardez ce que vous pourrez demander comme financement, parce qu'en fait, à quoi elle va servir cette matrice ? C'est que ces établissements, pour pouvoir avancer, il faut qu'ils soient financés. Le problème, c'est que sur les questions numériques, tout change extrêmement rapidement. Et bien, c'est compliqué pour une université de savoir exactement quoi demander dans le cadre des grands financements PIA2, PIA3, qui sont quand même des enveloppes de plusieurs dizaines de millions d'euros, centaines de millions d'euros, mais pour lesquels il faut candidater avec des projets très précis, très complets et parfois trop complexes.
France Culture, la grande table, Caroline Brouet.
Avec Mounir Majoubi aujourd'hui, qui est le nouveau président du Conseil national du numérique, et autour de la table pour l'interroger à nos côtés, la coordinatrice de la Quadrature du Net, Adrienne Charmet. C'est à vous, Adrienne.
Oui, alors je voulais poser une question sur la question de la doctrine du CENIUM, où il n'y a pas de doctrine affichée, il n'y a pas de programme affiché du CENIUM. Mais du coup, votre ce que vous venez d'expliquer sur l'enseignement supérieur me fait me poser la question, est-ce que vous avez l'intention de lier un peu plus les différents sujets que vous traitez, par exemple sur la question des étapes pour l'enseignement supérieur, pour les universités, pour pouvoir arriver à une transformation numérique. Est-ce que dans votre réflexion, vous intégrez d'autres réflexions que vous avez, par exemple, est-ce qu'on fait progresser une université en la faisant rentrer dans un partage de ses contenus sous licence libre, dans l'intégration de la notion de commun que le CENUM a défendue au moment de la loi numérique, même si, une fois encore, c'est pas arrivé dans la loi. Comment est-ce que finalement vous allez réussir à apporter une doctrine un petit peu unie avec un programme de fond, ou est-ce que vous allez rester
au
cas par cas sur des sujets où une fois on va être d'accord, une fois on va pas être d'accord, mais il n'y a pas vraiment de pour l'instant nous on
et
a
non,
pas
non, vient la vision du voilà. Numérique.
On va prononcer voilà. Le mot commun, donc voilà. Très bien.
Mounir Majoubi.
Il faut en parler des communs. Aujourd'hui, on a lancé un exercice. Le nouveau Sénium s'est réuni pour la première fois vendredi dernier. Donc n'oubliez pas que je suis le président d'un collège de 30 personnes indépendantes. On est tous bénévoles. Et donc je représente ce collège. Et une des discussions qu'on a eues ensemble, c'est de se dire c'est quoi notre vision. Et alors, pas du numérique, mais quelle est notre vision de la société à l'ère du numérique. Et ben c'est ça, cette discussion qu'on a aujourd'hui. Parce que vous avez raison, tout se tient. Si on ne fait que des recommandations extrêmement pratiques et opératives comme je viens de vous le décrire, ben on va manquer de vision. C'est pour ça qu'il y a un autre élément dont je vous ai pas parlé sur le rapport enseignement supérieur, qu'il faut plus appeler rapport. Il y a cette matrice et puis il y a une note de vision, c'est juste 15 pages. Et ça raconte l'université en 2020 dans une société qui aura passé la transition numérique. Et donc aujourd'hui, on fait cet exercice ensemble avec les 30 nouveaux membres pour voir ce qu'on partage avec le précédent collège. Et le précédent collège, vous l'avez dit, a autour du commun tenté de créer un vocabulaire, une doctrine, une compréhension sociétale de ce que ça pourrait vouloir dire, avoir une société des communs. Société des communs, c'est une société où il y a des éléments, des objets culturels, des objets de savoir, des objets du vivre ensemble qui appartiennent à tous. Et ben, cette philosophie du commun, c'est quelque chose qui nous habite. Et aujourd'hui, j'essaye moi de ressentir auprès de ces 30 membres si c'est bien quelque chose qui les habite aussi. Moi, c'est quelque chose qui m'habite vraiment. Et j'aimerais qu'on arrive à penser ce que ça veut dire, ce commun, pour les décennies à venir. Et donc, l'influence que ça pourrait avoir sur nos différents sujets.
Parce qu'il y a quand même une grande question de savoir, est-ce que on va partager tout cela ou est-ce qu'on en fait une marchandise? Est-ce que sur ce plan-là, votre idée est clairement précisément établie?
Alors, si on parle de l'enseignement supérieur...
En général.
En général, il ne faut pas oublier qu'il y a l'activité des entreprises et il y a l'activité de ce qui vient du public. Moi, je vais vous parler de ce qui vient du public. Par exemple, la recherche publique, le contenu pédagogique créé par les établissements publics. Aujourd'hui, ce n'est pas très clair, l'accessibilité de la recherche publique. Et heureusement, dans la loi République numérique, on a parlé de ce sujet-là. Est-ce qu'un laboratoire intégralement financé par l'argent public, qui historiquement est financé par l'argent public, dans une institution financée par l'argent public, est-ce qu'on peut encore accepter que le résultat de ces recherches ne soit accessible uniquement que dans des revues où l'abonnement coûte plus de 6 000 euros par an? La réponse, pour moi, elle est assez évidente, c'est non. Mais il y a quand même un système économique qui existe autour de ces publications. Donc l'équilibre qu'a essayé de trouver la loi, qui n'est pas celui qu'on a proposé, mais qui est quand même un équilibre très acceptable, c'est de dire, il y a une durée pendant laquelle on va donner le monopole à ces grands éditeurs pour mettre à disposition ces résultats, sauf qu'au bout d'un moment, les résultats de la recherche publique, eh ben, ils appartiennent au public. Et c'est tout le sujet de l'open data. L'open data, c'est pas juste les statistiques du train qui passe et à quelle heure il passe. L'open data, c'est aussi un potentiel en valeur d'utilité commune énorme. Et sur la recherche publique, le potentiel d'utilité, il est au-delà de ce qu'on imagine et ça peut être assez incroyable comme transformation si tous ces résultats étaient à disposition de tous.
Mais de tous, précisément, pas seulement des Français, je suppose. Vous êtes le Conseil national du numérique, mais vous dépendez de personne, vous nous avez dit, mais vous êtes nommé, disons, par un gouvernement, Mounir Majoubi. Là, on touche à la question de l'accès aux données. Ce que vous venez de dire concernant la recherche publique et les publications devrait être accessible à tout le monde, partout, et pas seulement pour les Français.
Alors là, vous posez même la deuxième étape des communs. C'est pour l'instant, on parle de français au niveau de la nation, mais oui, il y a le niveau communautaire, le niveau européen, et puis il y a peut-être au-delà. Et c'est vrai que sur la recherche publique, et si vous regardez la création d'Internet, si vous regardez la recherche historique, notamment dans les sujets informatiques, si vous regardez le logiciel open source, ça fait longtemps que le logiciel open source, il a dépassé les nations. Aujourd'hui, quand on regarde les contributeurs de Linux, c'est dur de dire qu'il y a un pays qui est plus puissant que les autres dedans. Même si, et c'est un de mes grands chevaux de bataille en ce moment, c'est de dire que l'open source, notamment sur la souveraineté numérique nationale, les logiciels open source, ils sont open quand on les comprend. Donc il faut qu'il y ait plus de gens qui participent et qui contribuent en France. Et pourquoi pas des informaticiens financés par le public. Aujourd'hui, on manque de contributeurs dans ces logiciels-là. Et moins on contribue, moins on comprend. Je ne sais pas s'il y a besoin de développer un nouveau système d'exploitation français si on avait plusieurs centaines de Français qui participent au développement des systèmes open source. Et ça créerait une souveraineté commune.
Adrien Charmet.
À ce propos-là, beaucoup de gens, notamment dans le milieu du logiciel libre en France, se sont un peu inquiétés de la nouvelle composition du Collège du Conseil national du numérique. On a vu un glissement entre les deux, l'époque de Benoît Tuelien et la vôtre maintenant, avec un effacement, on va dire, du monde du libre, du monde des communs, enfin d'une certaine vision, avec des nouveaux membres plus axés sur du logiciel propriétaire, plus axés sur le monde de l'entreprise. Forcément, on s'inquiète de la vision que le CNUM va porter du numérique et de la société numérique avec ce glissement. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, ou est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que vous allez continuer à porter une vision favorable au logiciel libre? On en a effectivement beaucoup besoin, et vous le rappelez. On a des frictions avec le gouvernement ou avec le Parlement là-dessus, qui refusent absolument de donner cette priorité au logiciel libre, y compris dans l'administration publique. Qu'en pensez-vous aujourd'hui,
Mounir Majoubi?
Alors la question de la composition, c'est toujours compliqué de composer un collège représentatif de 30 personnes. Aujourd'hui, moi je peux vous assurer que les 30 membres de ce conseil, ils ont été nommés pour leurs compétences personnelles. Heureusement, c'est pas un conseil représentatif des lobbies ou représentatif des sociétés pour lesquelles ces personnes-là sont parfois salariées ou qu'elles dirigent. Aujourd'hui, dire que le logiciel libre est pas représenté, c'est pas quelque chose de vrai, parce que on a quand même parmi nos membres des gens qui sont des grands soutiens officiels, contributeurs du logiciel libre. Je pense à Véronique Turner. Et puis après, on a des chercheurs, des professeurs, que ce soit Yves Poilane ou président l'INRIA, ou Antoine, président l'INRIA, ou Sophie Penn, et moi-même, qui sont historiquement des grands soutiens du logiciel libre. Et donc moi, je peux vous assurer que sur le logiciel libre, je vais tout faire pour que, un, on fasse la pédagogie, parce que je pense, et je l'ai vu avec les échanges qu'on a eu avec des parlementaires, qu'il y a une méconnaissance, une incompréhension. C'est quand même bizarre, hein, comme objet, le logiciel libre. C'est un objet où le code source est ouvert à tous, où pour participer, c'est un peu comme Wikipédia, les gens comprennent pas forcément comment ça fonctionne, ce système où tout le monde peut contribuer. Le logiciel libre, il y a une gouvernance du logiciel libre qui est pas la même selon les licences, qui est pas la même selon les logiciels, qui est parfois entraînée par une société commerciale et qui ouvre le code source à d'autres. Parfois, l'origine du leadership, elle naît plutôt de développeurs qui ont créé un objet et qui réunissent une communauté de développeurs autour et qui créent une gouvernance véritablement ouverte. En fait, ce sujet du logiciel libre, il mériterait à lui tout seul qu'on s'y pose collectivement et qu'on ait une stratégie nationale autour du logiciel libre.
Puisque vous parlez, Mounir Majoubi, de ce logiciel libre, de la liberté également d'accès et de l'ouverture du code source, évidemment, le sujet qui vient tout de suite en tête, c'est ce sujet qui occupe aujourd'hui, en tous les cas, la plus grande entreprise américaine face au plus grand pays du monde, c'est-à-dire Apple contre FBI, et cette idée de la volonté du FBI de demander à Apple de déverrouiller ce téléphone utilisé par l'un des terroristes dans l'attentat de San Bernardino en Californie. Cette demande-là est en débat, oppose clairement Microsoft, Facebook, Google d'un côté et le gouvernement de l'autre. C'est un débat qui rejoint des débats que l'on connaît sur la protection de la vie privée d'un côté, la sécurité nationale de l'autre. Et bien, sur une question comme celle-là, est-ce que le Conseil national du numérique peut être saisi pour qu'on lui demande, alors là je vous le fais moi à titre personnel, qui a raison dans cette histoire?
Alors, qui a raison, c'est pas forcément notre position préférée, parce que nous, ce qu'on aime, c'est faire la pédagogie et expliquer en tout cas quels sont les enjeux. Là, sur ces sujets dont vous parlez, qui pour moi est très différent du sujet de l'open source, parce que on a le droit d'avoir des grands éditeurs qui ont des logiciels fermés, qui n'ouvrent pas leur code source, etc. La grande question là, c'est de se dire l'accès aux données et aux données chiffrées et la souveraineté personnelle qu'on peut donner aux citoyens lambda de créer un lieu de souveraineté numérique, que ce soit son téléphone, que ce soit sur son ordinateur, que ce soit dans un cloud qui serait un cloud personnel sécurisé, etc. Et ça pose la plus grande question et qui est la question la plus complexe, celle de la confiance. Aujourd'hui, tout à l'heure, on a parlé de Trump. Quand on parle des États-Unis sous Obama et qu'on connaît les moyens du renseignement américain, etc. Bon, on a déjà un peu peur pour nos données. Mais on se dit, à la fin, c'est quand même un gouvernement avec lequel on partage beaucoup de positions internationales. Le jour où c'est pas Obama et où c'est Trump. Le jour où c'est pas les États-Unis et c'est la Russie ou la Chine qui demandent la même chose. Je pense que les gens n'auront pas le même avis. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est de revenir sur la question de la confiance personnelle. Aujourd'hui, on se connecte à sa banque et on n'a pas peur, parce qu'on sait que la connexion que j'ai entre moi et ma banque, elle est chiffrée. Et donc, je me dis...
Elle est chiffrée, donc cryptée, c'est ça?
C'est-à-dire que les données qui passent de mon ordinateur à celui de ma banque, même si quelqu'un les intercepte au milieu, pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, ça va durer longtemps et c'est compliqué à faire.
C'est protégé, quoi. Ça reste secret.
Ça reste protégé, ça reste secret. Ça peut quand même être intercepté, ça peut quand même être déchiffré, ça prendra du temps. La question de la backdoor, c'est de se dire, en fait, ça peut être intercepté et puis il n'y aura même pas besoin de prendre du temps. On pourra lire de façon massive l'intégralité des échanges. Ça, c'est une des premières questions sur l'interception et le chiffrement des communications. Puis il y a la deuxième question qui est celle de l'appareil. Et c'est là où le débat est nouveau et c'est là où les amendements aujourd'hui de Yann Gallu, d'Éric Ciotti, c'est là où la position Apple contre FBI est très importante. C'est est-ce que oui ou non, on peut décider que les Français, que n'importe quel citoyen, qu'une entreprise peut avoir un coffre-fort non exploitable dans lequel il met ses informations et dans lequel il a une confiance absolue. Ça, c'est une grande question. Si on y croit, alors si on fait une brèche, on casse l'intégralité de ce système et cette promesse n'existe plus. Et on dit à tout le monde, aujourd'hui, dans les temps troubles qu'on traverse, nous l'annonçons, plus personne ne peut avoir de lieu garanti de la sécurité de ses données. Je ne sais pas si c'est la société dont je rêve, notamment dans un avenir à moyen terme ou long terme où on va pouvoir voter en ligne, on va pouvoir développer les échanges en ligne, où les PME françaises peut-être auront peut-être 100% de leur chiffre d'affaires en ligne. Moi, je pense qu'il faut surtout avoir une culture commune du chiffrement. Si tous les Français comprenaient l'enjeu du chiffrement, si toutes les PME françaises comprenaient les enjeux du chiffrement, déjà on se protégerait bien. Parce que aujourd'hui, la réalité du chiffrement et des écoutes, c'est pas la lutte antiterroriste. La lutte antiterroriste, c'est un millionième des écoutes et un millionième de la question du chiffrement. Ce qui est très dangereux, c'est plutôt l'écoute économique, c'est-à-dire le hacking économique où on prend des données dans nos entreprises françaises parce qu'on chiffre rien. Aujourd'hui, si on se dit la vérité, en France, les entreprises ne chiffrent rien. Elles envoient en clair par email dans des protocoles de mail non cryptés avec leurs partenaires, avec tout le monde, on n'a pas peur. Il n'y a que le gouvernement qui, à certains échelons, impose le chiffrement des communications. Mais si tout le monde se disait, ces données-là, je les protège, elles sont chiffrées, si les PME disaient, là, on résoudrait quand même beaucoup plus que cette question du terrorisme. Et après, la vérité, c'est que cette question du terrorisme, elle est quotidienne. Aujourd'hui, on est menacé. Donc, est-ce que, au nom de l'arrestation d'un terroriste ou de quelques terroristes, on doit remettre en cause l'intégralité de la confiance de la société numérique de demain? C'est ça le débat qui est offert à tout le monde et qui est composé à tout le monde aujourd'hui.
Adrienne Charmet.
Voilà comme j'aime bien entendre le CNUM. Justement, à ce propos-là, vous avez rapidement parlé d'amendements dans la loi française. On a une loi sur la réforme pénale, la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme qui est entré en discussion à l'Assemblée nationale hier, qui touche assez largement les domaines de la vie privée en ligne ou de la vie privée tout court, et qui fait l'objet d'une discussion extrêmement rapide dans un contexte d'état d'urgence avec cette pression du risque terroriste. On a vu effectivement arriver des amendements demandant aux entreprises de donner des accès, en prenant l'exemple d'Apple, pour accéder aux données chiffrées, mais plus généralement qui alourdit encore les capacités d'intrusion de la police dans les systèmes informatiques, qui étend à la police les moyens donnés aux services de renseignement l'année dernière. Alors je sais que c'est allé très très vite parce que cette loi est arrivée extrêmement vite, mais on n'a pas vu d'avis du CNUM dessus. En plus, vous étiez en pleine transition. Maintenant, on a, nous par exemple, en tant qu'association, énormément de mal aujourd'hui à se faire entendre sur ce sujet parce qu'il y a une pression du risque terroriste très très forte. Est-ce que le CNUM va reprendre un peu la main là-dessus, remonter au créneau? Quelle est l'écoute du côté du gouvernement? On a l'impression, vu d'une association de défense des droits, d'une sorte de glissement extrêmement rapide en 1 ou 2 ans sur les questions sécuritaires qui sont aujourd'hui très 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 massivement liées à la question d'Internet. Est-ce que vous allez continuer à essayer d'influencer le gouvernement, les parlementaires, ou de moins de prendre position de manière extrêmement claire sur ces questions-là, en disant qu'on ne peut pas, comme ça, exactement comme vous venez de l'expliquer, pour résoudre 1, 2, 3 affaires terroristes, mettre en péril le principe même de vie privée à l'ère numérique?
Mounir Majoubi.
Il y a une question qui est très importante parce que parfois on peut l'occulter quand on prend des positions comme celle-là, c'est celle du rôle du renseignement dans la sécurité des Français. La position du CNUM, c'est une position équilibrée sur ce sujet-là. On a besoin de services de renseignement très puissants. On a besoin d'avoir au niveau français des capacités de déchiffrement et des capacités de sécurité, de cybersécurité, de cybercompréhension très élevées. Il y a eu un plan de financement militaire les 5-10 dernières années qui ont permis à la France de s'équiper en termes technologiques, en termes de profil, en termes de formation, de personnes de très hautes compétences. Donc nous, on remet pas en cause ça. Heureusement qu'on a ces services de renseignement pour nous protéger. Après, on pense qu'il faudrait aussi qu'il y ait une mise en commun européenne, mais on voit tous les problèmes que ça cause, parce que aujourd'hui, le renseignement, ça fait partie de la souveraineté nationale. Mais donc, ce renseignement, il est très important. Nous, ce qu'on essaie de souligner, c'est le moment où cette politique de renseignement atteint à d'autres droits et à d'autres modes de vie et à d'autres éléments de la façon dont on vit ensemble. Et c'est ça la question que vous avez posée sur aujourd'hui les amendements qui sont posés. Ce que nous, on veut absolument, c'est que quand on fait la discussion de ces amendements au Parlement, on aborde bien les conséquences sur le projet de société que peuvent avoir ces amendements-là. Si la souveraineté nationale représentée par le Parlement et le gouvernement décide, mais il faudra le dire clairement, et on peut l'entendre, qu'aujourd'hui, eu égard aux renseignements qui sont disponibles, eu égard aux capacités technologiques des États, eu égard à la menace imminente, nous considérons qu'il faut mettre de côté ces libertés individuelles pendant une période qui va avoir un impact très long, puisque le temps qu'on puisse se réapproprier cette souveraineté personnelle, ça va prendre beaucoup de temps. Alors, ce sera une responsabilité importante et lourde du Parlement et du gouvernement. Il faudra le dire très clairement. On ne pourra pas faire passer ces deux amendements discrètement comme ça.
Il n'y a pas que ces deux amendements. Le fond de la loi même pose des problèmes. L'écriture même, le texte de la loi présenté par le gouvernement est déjà assez lourd en termes d'extension des atteintes à la vie privée. Et là, il ne s'agit pas d'amendements déposés par deux députés dont on a l'impression qu'ils n'ont pas tout à fait compris de quoi ils parlaient. On est dans la doctrine du gouvernement là-dedans qui veut... En très peu de temps, à nouveau étendre les moyens d'intrusion, à nouveau criminaliser encore plus les accès au système de traitement de données. Enfin, on a quand même des choses qui sont publiées maintenant depuis un mois et sur lesquelles, il y a besoin aussi de faire ce travail. Et je repose du coup la question de l'utilité du CNUM.
On a une position dessus qui était dans l'avis qu'on a rendu sur la loi renseignement et qui est encore ce qu'aujourd'hui. Alors, pour dire aussi ce qu'on fait, j'ai réuni parmi les 30 membres du collège un groupe qui travaille spécifiquement sur cette question. On essaie de rencontrer les différentes personnes qui travaillent sur ces sujets-là, mais on a quand même des éléments de doctrine là-dessus, c'est de se dire si le gouvernement souhaite absolument mettre en place ses lois et avec le Parlement, c'est sa souveraineté, nous on veut des garde-fous. Notamment l'implication du juge judiciaire, notamment des autorités de contrôle indépendantes au milieu des dispositifs de renseignement. On souhaite que tout cela soit documenté, on souhaite que tout cela soit fait dans le cadre de contre-pouvoirs, y compris des contre-pouvoirs ayant les droits ayant le droit au secret. On n'est pas forcément pour rendre public les interceptions de renseignement qui pourraient avoir lieu. Mais aujourd'hui, il n'y a pas encore de contre-pouvoir fort, y compris dans les services de renseignement, sur l'équilibre entre ces interventions de renseignement et ces écoutes et la protection des droits individuels.
Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, ubérisation. Est-ce que la société numérique, c'est une société ubérisée ou pas forcément ? 30 secondes.
Ubériser, si ça veut dire créer de la précarité salariale, créer de la précarité, de l'instabilité dans les parcours de vie, malheureusement, le numérique va perturber énormément de secteurs industriels, notamment ceux qui ne se sont pas préparés à la transformation numérique. Et c'est un des grands enjeux sur les PME-PMI qu'on a pris cette année, c'est de se dire, on ne peut pas laisser nos PME françaises ne pas aborder elles-mêmes activement la transition numérique et se la faire aborder par des plateformes qui viendraient des pays étrangers, notamment des États-Unis, et qui seraient potentiellement destructeurs d'emplois. Le numérique, c'est surtout un potentiel de création d'emplois et de valeur pour le pays incommensurable.
Mouya Majoubi, le Conseil national du numérique a une bonne réputation.
J'espère.
Vous avez une bonne réputation.
Pour l'instant, je l'espère, oui.
Ah, vous avez choisi la mauvaise réputation, pour quelle raison ?
J'aime beaucoup cette chanson, j'aime beaucoup Brassens. Et puis le numérique, si on écoute bien, et notamment avec votre dernière question, n'a pas toujours eu bonne réputation.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets. Ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui... qui sonne, mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que.
En tout cas, nous allons suivre la voie du Conseil national du numérique et essayer de voir si vous arrivez à vous rendre plus utile dans les 5 ans, disons, qui viennent. Merci beaucoup, Mounir Majoubi, d'être venu au micro de la Grande Table. Un grand merci à vous.
Merci.
Adrienne Charmet, d'être venue également à la Grande Table. Vous pouvez bien sûr écouter cette émission et la podcaster sur le site internet franceculture.fr. La Grande Table, c'est Raphaël Bourgois, Clémence Marie, Jeanne Aléos, Henri Leblanc, Antoine Sims. Un grand merci à Tiphaine Malfette qui est avec nous cette semaine à la réalisation. Philippe Baudouin à la prise de son, Yanis Joudad.